Jean-Henri Merle-d'Aubigné, Histoire de la Réformation du XVIe siècle, tome 4, chapitre 14, La Confession d'Augsbourg, 1530. 14.1. Deux grandes leçons. Charles Quint en Italie. Les trois députés allemands. Arthiès des députés. Présent du Landgrave à Charles. Les députés aux arrêts. Ils sont délivrés. Rencontre de Charles et de Clément. Proposition d'un concile libre. La guerre est imminente. Objection de Luther. Le Sauveur vient. Le prophète Daniel. Invitation conciliante de Charles. La Réformation s'était accomplie au nom d'un principe spirituel. Elle avait proclamé comme enseignement la parole de Dieu, comme salut la foi, comme roi Jésus-Christ, comme arme le Saint-Esprit, et par là même, elle avait repoussé les éléments du monde. Rome avait été établie par la loi d'une ordonnance charnelle. La Réformation l'était par la puissance d'une vie qui ne doit point finir. S'il est un dogme qui distingue le christianisme de toutes les religions, c'est celui de sa spiritualité. Une vie céleste apportée à l'homme, voilà son œuvre. Aussi, l'opposition de l'esprit de l'Évangile avec l'esprit du monde fut-il le grand fait qui signala l'entrée du christianisme parmi les peuples. Mais ce que le chef avait séparé s'était rapproché. L'Église était retombée dans les bras du monde, et cette union criminelle l'avait réduite à l'état déplorable où elle se trouvait au temps de la Réformation. Aussi, l'une des plus grandes tâches du XVIe siècle était-elle de rétablir dans ses droits l'élément spirituel. L'Évangile des réformateurs n'avait rien à faire avec le monde et la politique. Tandis que la hiérarchie romaine était devenue une affaire de diplomatie et une intrigue de cour, la Réformation ne devait exercer sur les princes et sur les peuples d'autre influence que celle qui provient de l'Évangile de paix. Si la Réformation, parvenue à un certain point, devenait infidèle à sa nature, se mettait à parlementer, entrait en pourparlers avec le monde et cessait ainsi de demeurer conséquente aux principes spirituels qu'elle avait si hautement proclamés, elle faisait défaut à Dieu et se faisait défaut à elle-même. Dès lors, sa chute était prochaine. Il est impossible qu'une société prospère si elle n'est pas fidèle aux principes qu'elle établit. Ayant abandonné ce qui faisait sa vie, elle ne peut trouver que la mort. Dieu voulut que cette grande vérité fût inscrite sur le seuil même du temple qu'il élevait alors dans le monde, et un contraste étonnant devait la faire ressortir avec éclat. Une partie de la réforme devait rechercher l'alliance du monde, et dans cette alliance trouver une ruine pleine de désolation. Une autre partie devait, en regardant à Dieu, rejeter hautement le bras de la chair, et par cet acte de foi, remporter un magnifique triomphe. Si trois siècles se sont égarés, c'est pour n'avoir pas su comprendre cette leçon si grave et si solennelle. C'était au commencement de septembre 1529 que Charles Quint, vainqueur du pape et du roi de France par les batailles et les traités, avait abordé à Gênes. Les acclamations des peuples espagnols l'avaient salué à son départ de la péninsule ibérique. Mais l'œil morne, la tête baissée, les lèvres muettes des populations italiennes livrées entre ses mains, l'accueillirent seul au pied des Apennins. Tout faisait croire que Charles se dédommagerait sur ses peuples de l'apparente générosité avec laquelle il avait traité le pape. On se trompait. Au lieu de ces chefs barbares, des Goths et des Huns, ou de ces superbes et farouches empereurs qui, plus d'une fois traversant les Alpes, s'étaient jetés sur l'Italie, l'épée à la main et avec des cris de vengeance, les Italiens voyaient paraître au milieu d'eux un jeune prince, rempli de grâce, d'une figure pâle, d'un corps délicat, d'une voix faible, de manière prévenante, ayant l'air d'un courtisan plus que d'un soldat, remplissant avec exactitude les devoirs de la religion romaine, et traînant à sa suite, non les terribles cohortes de barbares germains, mais un cortège brillant de nobles espagnols qui étalaient avec complaisance l'orgueil de leur race et la magnificence de leur nation. Vainqueur de l'Europe, Charles ne parlait que de paix et d'oubli. Et le duc de Ferrare lui-même, qui de tous les princes italiens avait le plus à craindre, lui ayant remis à Modène les clés de sa ville, entendit de sa bouche bienveillante les encouragements les plus inattendus. D'où venait cette étrange conduite? Charles avait assez montré, lors de la captivité de François Ier, que la générosité envers ses ennemis n'était pas sa vertu dominante. Ce mystère ne tarda pas à s'expliquer. Presque en même temps que l'empereur était arrivé en Italie, par Lyon et par Gênes, trois bourgeois de l'Allemagne, n'ayant que 6 chevaux pour tout équipage. C'étaient Jean Ehinger, bourgmestre de Memmingen, qui portait la tête haute, prodiguait l'argent autour de lui, et ne se piquait pas d'une grande sobriété. Michel Cadenne, syndic de Nuremberg, homme honnête, pieux et courageux, mais haï du comte de Nassau, le plus influent des ministres de Charles. Et enfin, Alexis Frauentraut, secrétaire du margrave de Brandebourg, qui, ayant pris une religieuse pour femme, était très mal vu des catholiques romains. Tels étaient les 3 hommes que les princes protestants réunis à Nuremberg envoyaient porter à l'empereur la fameuse protestation de Spire. On avait choisi des députés d'une condition peu élevée, dans l'idée qu'ils courraient moins de dangers. Porter un tel message à Charles Quint était, à vrai dire, une mission dont peu de gens se souciaient. Aussi, une pension extraordinaire avait-elle été assurée aux veuves des députés en cas de malheur. Charles, se rendant de Gênes à Bologne, se trouvait dans les murs de Plaisance quand les 3 députés protestants l'atteignirent. Ces simples germains faisaient un singulier contraste au milieu de cette pompe espagnole et de cette ferveur romaine qui entourait le jeune prince. Le cardinal Gattinara, chancelier de l'empereur, qui souhaitait sincèrement une réformation de l'Église, leur procura pour le 22 septembre une audience de Charles Quint. Mais on leur recommanda d'être sobres de parole, car il n'y avait rien que l'empereur redouta comme un sermon protestant. Les députés ne se laissèrent point arrêter par ces insinuations. Après qu'ils eurent remis à Charles la protestation de Spire, Frauentraut prit la parole et lui dit « C'est au juge suprême que chacun de nous doit rendre compte, et non à des créatures qui tournent à tout vent. La puissance humaine ne peut ni nous sauver ni nous perdre, mieux vaut tomber dans les nécessités les plus cruelles que d'encourir la vengeance de Dieu. Nos peuples n'obéiront pas à des décrets qui reposeront sur d'autres bases que les saintes Écritures. Il n'est ni du devoir, ni du pouvoir des princes de contraindre leurs sujets à des choses criminelles. Tel était le noble langage que ces bourgeois d'Allemagne faisaient entendre à l'empereur d'Occident. Charles ne dit mot, c'eût été leur faire trop d'honneur. Mais il chargea l'un de ses secrétaires d'annoncer aux députés une réponse ultérieure. On ne se hâta pas d'expédier ces minces ambassadeurs. En vain, chaque jour, renouvelaient-ils leurs sollicitations. Gattinara les traitait avec bonté, mais le comte de Nassau les renvoyait avec d'acerbes paroles, et la réponse officielle n'arrivait pas. Un ouvrier, le plaqueur de la cour, devant se rendre à Augsbourg pour y acheter des armures, et craignant de faire le voyage tout seul, demanda au ministre de Charles Quint d'expédier les députés protestants. « Vous pouvez leur dire, répondit-il, que nous terminerons leur affaire afin que vous ayez des compagnons de voyage. » Mais le plaqueur, ayant trouvé une autre société, il fallut attendre. Les députés tâchèrent, du moins, de bien employer leur temps. « Prenez ce livre, avait dit le landgrave à Caden au moment du départ, en lui donnant un ouvrage français, relié en velours, avec garniture d'or, et remettez-le à l'empereur. » C'était un sommaire de la foi chrétienne que le landgrave tenait de François Lambert, et qui probablement avait été composé par ce docteur. Caden cherchait l'occasion de donner son traité. Un jour, donc, que Charles se rendait publiquement à la messe, le syndic de Nuremberg lui présenta le livre. L'empereur le prit et le passa aussitôt à un évêque espagnol qui était près de lui. L'espagnol se mit à le lire chemin faisant et tomba sur le passage des Écritures où Christ ordonne à ses apôtres de ne pas rechercher la domination. L'auteur en profitait pour établir que les ministres chargés du spirituel ne doivent pas se mêler du temporel. L'évêque papiste se mordit les lèvres, et Charles, qui s'en aperçut, lui ayant demandé « Eh bien, qu'y a-t-il donc ?» L'évêque, embarrassé, eut recours à un mensonge. « Ce traité, répondit-il à Charles Quint, ravit aux magistrats chrétiens le droit du glaive, et ne l'accorde qu'aux nations étrangères à la fois. » Aussitôt grande rumeur. Les Espagnols, surtout, étaient hors d'eux-mêmes. Les misérables qui ont tenté de séduire un si jeune prince, disait-il, mériteraient qu'on les pendît au premier arbre du chemin. Charles jura, en effet, que le porteur d'un tel présent serait puni de son audace. Enfin, le 12 octobre, Alexandre Schweiss, secrétaire impérial, remit aux députés la réponse de l'empereur. Il y était dit que la minorité devait se soumettre aux décrets faits en diète par la majorité, et que si le duc de Saxe et ses alliés s'y refusaient, on ne manquerait pas de moyens pour les y contraindre. Ehinger et Caden lurent alors à haute voix l'appel à l'empereur, fait à Spire par les princes protestants le 26 avril, 6 jours après la protestation, tandis que Frauentraut, qui avait renoncé à sa qualité de député pour revêtir celle de notaire, prenait acte de ce qui se passait. La lecture finie, les députés s'avancèrent vers Schweiss et lui présentèrent l'appel. Alors commença une scène qui menaçait de devenir violente. Le secrétaire impérial, interdit, repoussait l'acte. Les députés insistaient. Schweiss tenait ferme. Alors, les députés posèrent l'appel sur la table. Schweiss, ébranlé, prit le papier et le porta à l'empereur. Après dîner, au moment où l'un des députés, Caden venait de sortir, un tumulte dans l'hôtellerie annonça quelque catastrophe. C'était le secrétaire impérial qui revenait, dûment accompagné. L'empereur est fort irrité contre vous à cause de cet appel, dit-il aux protestants, et il vous défend, sous peine de confiscation et de mort, de mettre le pied hors du logis, d'écrire en Allemagne, ni d'y envoyer qui que ce soit. Charles mettait aux arrêts des ambassadeurs, comme des officiers de sa garde, voulant ainsi afficher son dédain et épouvanter les princes. Le domestique de Caden, effrayé, se glissa hors de l'hôtellerie et courut vers son maître. Celui-ci, se regardant encore comme libre, écrivit à la hâte toute l'affaire au Sénat de Nuremberg, remit ses lettres à un express et retourna partager les arrêts de ses collègues. Le 25 octobre, l'empereur, partant de Plaisance, traîna après lui les trois Allemands. Mais le 30, il fit relâcher Ehinger et Frauentraut, qui, au milieu de la nuit, montèrent à cheval et se jetèrent au grand galop dans une route infestée de voleurs et battue par des soldats. « Quant à vous, dit Granvelle à Caden, vous resterez sous peine de mort. L'empereur attend que vous remettiez aussi au pape le livre que vous lui avez présenté. » Peut-être Charles trouvait-il piquant de montrer au pontife romain cette défense faite au ministre de Dieu de se mêler du gouvernement des peuples. Mais Caden, profitant des préoccupations de la cour, se procura secrètement un cheval, s'enfuit à Ferrare et de là à Venise, d'où il revint à Nuremberg. Plus Charles paraissait irrité contre l'Allemagne, plus il montrait de modération aux Italiens. De fortes contributions pécuniaires étaient tout ce qu'il demandait. C'était, au-delà des Alpes, au centre de la chrétienté, au moyen des controverses religieuses elles-mêmes, qu'il voulait fonder sa puissance. Il se hâtait et n'avait besoin que de deux choses. Derrière lui la paix, avec lui des trésors. Le 5 novembre, il entra dans Bologne. Tout frappait les regards. La foule des seigneurs, l'éclat des équipages, la fierté des bandes espagnoles, les 4000 ducats que l'on jetait à pleine main au peuple, mais surtout, la majesté et la magnificence du jeune empereur. Les deux chefs de la chrétienté romaine allaient se rencontrer. Le pape sortit de son palais, avec toute sa cour. Charles, à la tête d'une armée qui eut en quelques jours conquis toute l'Italie, affectant l'humilité d'un enfant, se jeta à genoux et baisa les pieds du pontife. L'empereur et le pape demeuraient à Bologne, dans deux palais contigus, séparés par un mur où l'on avait pratiqué une porte, dont chacun d'eux avait la clé. Et l'on voyait souvent le jeune et politique empereur se rendre vers le vieux et rusé pontife, tenant des notes à la main. Clément obtint la grâce de Sforza, qui parut, malade et appuyé sur un bâton, devant Charles Quint. Venise reçut aussi son pardon. 1 million d'écus arrangea ses deux affaires. Mais Charles ne put obtenir du pape la grâce de Florence. On immola aux Médicis cette illustre cité, attendu, dit-on, qu'il est impossible que le vicaire de Christ demande quelque chose d'injuste. L'affaire la plus importante était la réforme. Plusieurs représentaient à l'empereur que, vainqueur de tous ses ennemis, il devait y aller de haut, dit Mainbourg, et contraindre les protestants par les armes. Mais Charles préférait affaiblir les protestants par les papistes, puis les papistes par les protestants, et élever ainsi sa puissance au-dessus des uns et des autres. Un parti plus sage fut néanmoins proposé dans une conférence solennelle. « L'Église est déchirée, dit le chancelier Gattinara. Vous, Charles, vous êtes le chef de l'Empire. Vous, le pape, vous êtes le chef de l'Église. C'est à vous de pourvoir, d'un commun accord, à des besoins inouïs. Assemblez les hommes pieux de tous les peuples, et qu'un concile libre puise dans la parole de Dieu un système de doctrine propre à être reçu par toutes les nations. » La foudre, tombant à ses pieds, n'eut pas causé à Clément plus de terreur. Issu d'une union illégitime, parvenu à la papauté par des voies peu honorables, ayant prodigué les trésors de l'Église dans une guerre injuste, ce pontife avait mille raisons personnelles pour redouter un concile de la chrétienté. Les grandes assemblées, répondit-il, ne sont bonnes qu'à répandre des opinions populaires. Ce n'est pas par des décrets de synode, mais par le fil tranchant de l'épée qu'il faut terminer les controverses. Gattinara ayant insisté, « Quoi ? S'écria le pape, en l'interrompant avec colère. Vous osez me contredire et exciter votre maître contre moi ?» Charles, étonné, se leva. Toute l'assemblée garda un profond silence, et le prince, s'étant rassis, appuya la demande de son chancelier. Clément se contenta de dire qu'il en délibérerait. Puis il se mit à travailler le jeune empereur dans des conférences intimes, et Charles promit enfin de contraindre les hérétiques par les armes, tandis que le pape appellerait tous les autres princes à son aide. Accabler l'Allemagne par la force des armes, puis l'anéantir entièrement, voilà le but unique des Italiens, écrivait-on de Venise à l'électeur. Telles étaient les sinistres nouvelles qui, en répandant l'alarme parmi les protestants, auraient pu les porter à s'unir. Malheureusement, un mouvement contraire s'opérait alors. Luther et quelques-uns de ses amis avait revu les articles de Marbourg dans un sens exclusivement luthérien, et les ministres de l'électeur de Saxe les avaient présentés à la conférence de Schwabach. Les députés d'Ulm et de Strasbourg s'étaient aussitôt retirés, et l'assemblée s'était dissoute. Mais bientôt, de nouvelles conférences étaient devenues nécessaires. L'exprès que Cadène avait expédié de Plaisance était arrivé à Nuremberg. Chacun comprenait, en Allemagne, que les arrêts des députés des princes étaient une déclaration de guerre. L'électeur, ébranlé, ordonna à son chancelier de prendre l'avis des théologiens de Wittenberg. « Nous ne pouvons, en notre conscience, répondit Luther le 18 novembre, approuver l'alliance qu'on nous propose. Plutôt, mourir 10 fois, que de voir notre évangile faire couler une goutte de sang. Notre rôle, c'est d'être comme des brebis à la boucherie. Il faut que la croix de Christ se porte, que votre Altesse soit sans aucune crainte. Nous ferons plus par nos prières que nos ennemis par leur fanfaronnade. Seulement, que vos mains ne se souillent pas du sang de vos frères. Si l'empereur exige qu'on nous livre à ses tribunaux, nous sommes prêts à comparaître. Vous ne pouvez point défendre notre foi. C'est à ses périls et risques que chacun doit croire. Le 29 novembre, un congrès évangélique s'ouvrit à Smalkalde. Un événement inattendu vint rendre cette assemblée plus importante encore. Ehinger, Cadden, Frauentraut, échappés aux griffes de Charles Quint, y parurent. Le landgrave ne douta plus du succès de ses desseins. Il se trompait. Point d'accord entre les doctrines contraires, point d'alliance entre la politique et la religion. Ces deux principes de Luther l'emportèrent encore. On convint que ceux qui seraient disposés à signer les articles de Schwabach, mais ceux-là seulement, se réunirait le 6 janvier à Nuremberg. L'horizon devenait toujours plus sombre. Les papistes de l'Allemagne s'écrivaient les uns aux autres ces courtes mais significatives paroles. « Le Sauveur vient. » « Hélas !» s'écriait Luther, « quel impitoyable Sauveur ! Il les dévorera tous comme nous. » En effet, deux évêques italiens, approuvés par Charles Quint, demandaient au nom du pape tout l'or et l'argent des églises et le tiers des revenus ecclésiastiques, ce qui causait une immense sensation. « Que le pape s'en aille à tous les diables !» disait un peu lestement un chanoine de Paderborn. « Oui, oui !» répondait malicieusement Luther, « c'est votre Sauveur qui vient. » Déjà, l'on s'entretenait de présages affreux. Ce n'était pas seulement les vivants qui s'agitaient. Un enfant, étant encore dans le sein de sa mère, y avait poussé des cris. « Tout est accompli, disait Luther. Le Turc est parvenu au plus haut degré de sa puissance. La gloire de la papauté s'en va, et le monde craque de toutes parts. » Le réformateur, craignant que la fin du monde n'arrivât avant qu'il eût traduit toute la Bible, publia à part le prophète Daniel, écrit, dit-il, pour ces derniers temps. Les historiens racontent, ajoutait-il, qu'Alexandre le Grand plaçait toujours Homère sous son chevet. Le prophète Daniel mérite que les rois et les princes le portent non seulement sous leur tête, mais dans leur cœur, car il leur apprendra que le gouvernement des peuples procède de la puissance de Dieu. C'est lui seul qui donne, qui institue, qui gouverne, qui protège, qui maintient, qui retire. Toutes choses sont dans sa main et s'agitent sous son pouvoir, comme un navire sur la mer ou un nuage sous le ciel. Cependant, l'effrayant fantôme que Philippe de Hesse n'avait cessé de montrer du doigt à ses alliés s'évanouit soudain, et ils découvrirent à sa place l'image gracieuse du plus aimable des princes. Le 21 janvier, Charles, en convoquant tous les états de l'Empire à Augsbourg, s'était appliqué à faire entendre le langage le plus conciliant. « Mettons fin à toute discorde, avait-il dit. Renonçons à nos antipathies. Faisons à notre Sauveur le sacrifice de nos erreurs. Appliquons-nous à comprendre et à peser avec douceur les opinions des autres. Anéantissons tout ce qui, des deux côtés, a été dit ou fait contre la justice, et recherchons la vérité chrétienne. Combattons tous sous un même chef, Jésus-Christ, et efforçons-nous ainsi de nous rencontrer dans une même communion, une même Église et une même unité. » Quel langage ! Comment se faisait-il que ce prince, qui n'avait parlé jusqu'alors que d'épée, ne parla maintenant que de paix ? On dira que le sage Gattinara y avait mis la main, que l'acte de convocation fut fait sous la pression de la terreur causée par l'invasion des Turcs, que l'empereur reconnut déjà alors le peu d'empressement des catholiques romains de l'Allemagne à seconder ses desseins, qu'il voulait intimider le pape, que ce langage plein de bonté n'était qu'un masque dont Charles se couvrait pour tromper ses ennemis, qu'il voulait faire de la religion en véritable empereur à la Théodose et à la Constantin, et cherchait d'abord à réunir les partis à l'aide de ses conseils et de ses faveurs, se réservant, si la bonté échouait, d'employer plus tard la force. Il se peut que chacun de ces motifs ait exercé une certaine influence, mais le dernier nous paraît être le plus important. Au reste, si Charles se laissait aller à des velléités de douceur, le fanatique Ferdinand tâchait de le ramener à la sévérité. « Je négocierai toujours sans jamais conclure, lui écrivait-il. Et, dussé-je même en venir là, n'ayez aucune crainte. Il ne vous manquera pas de prétexte pour châtier ces rebelles, et vous trouverez assez de gens heureux de prêter main forte à vos vengeances.